qu'on produit. Pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Alors nous sommes aujourd'hui à Champ-de-Lasse, en compagnie de Julia Burillon, éleveuse de chèvres et membre active du syndicat agricole désormais majoritaire dans notre département, la Confédération Paysanne. Bonjour Julia.
Bonjour.
Donc tu élèves des chèvres et des brebis que tu fais paître dans la garrigue, dans la nature. Tes animaux sont jamais parqués, jamais enfermés, donc elles sont pas dans un endroit fermé et contrôlé, quoi. Donc j'imagine que ça apporte tout un tas de choses positives, mais aussi des choses difficiles à gérer. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique réellement, l'élevage que tu pratiques, ce que ça implique pour les chèvres et pour les brebis, mais aussi pour toi et pour ton compagnon ?
Eh bien, il y a le climat déjà qui va nous dicter un petit peu comment va être notre journée, mais aussi comment va se dérouler l'année, tout en sachant que ça, on peut pas forcément le prévoir. Il faut toujours être à l'affût des jours qui viennent, des semaines qui viennent, des mois qui viennent. Notamment, par exemple, l'appréhension de l'été, elle est constamment dans notre esprit. Parce que voilà, on sait que ça va être une saison difficile, pauvre en ressources. Il y a des éléments intéressants dans les garrigues où les chèvres, elles vont pouvoir profiter, ça va donner du goût au fromage, elles vont être en bon état. Il faut aussi réfléchir à diversifier là où elles vont, parce que mine de rien, si on va toujours au même endroit, même si on a l'impression qu'il y a il y a de quoi faire, elles risquent de se parasiter. Et si on veut anticiper un peu les choses sur du long terme, il faut aussi réfléchir à la ressource qu'elle nous dure. Donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir aussi pas mal de surface, puisque voilà, les garrigues du Sud-Ardèche restent... pour qu'elles se régénèrent, il faut leur laisser aussi un temps de pause. Selon les saisons aussi, il y aura plus ou moins d'eau, donc la capacité de se régénérer va être aussi en fonction. Il y a tout ça à anticiper. Donc voilà comment nous, on réfléchit avec mon compagnon, parce que c'est lui qui garde le troupeau tous les jours. C'est à la fois son travail de berger, c'est de s'orienter en fonction des envies des chèvres tous les jours, parce qu'elles aiment la diversité. Donc, il y aura des jours, elles auront envie d'aller à tel endroit, mais tout au long de la journée, parce qu'ils gardent quand même pas mal d'heures par jour, on voit qu'elles vont commencer par quelque chose peut-être de plus grossier en termes de végétation, et elles vont essayer d'aller vers quelque chose de plus fin.
C'est leur dessert, quoi.
C'est leur dessert, et puis ça veut dire aussi qu'elles auront fait ce qu'on appelle un tapis fibreux. Donc qu'elles sont capables de prendre quelque chose de plus fin qui ne va pas forcément être éliminé tout de suite par leur organisme.
D'accord. Ça, parce que sinon, du coup, il les suit, il les laisse aller là où elles veulent, et lui, il essaye du coup d'encadrer un peu quand même.
C'est
avec,
ça.
Vous avez des chiens pour vous aider ?
Oui, tout à fait. Des chiens, des border collies pour garder le troupeau, signifier aux chèvres que la vigne du voisin ou le rosier de la voisine, on n'y touche pas. Et puis, un chien de protection aussi. Parce que voilà, il n'y a pas que le loup, il y a aussi, notamment cet été, on a eu deux huskies qui ont sauté sur le troupeau. Et donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et anticiper aussi l'arrivée du loup nous a fait penser qu'il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'on a également un chien de protection aujourd'hui.
Tu dirais que c'est quoi pour toi une agriculture qui respecte l'environnement et qui respecte le vivant ?
Comment on peut profiter tout en respectant l'environnement, la ressource qui nous entoure, la maintenir, ne pas la surexploiter pour qu'elle nous dure sur du long terme. Ensuite, il y a toute la réflexion de l'eau. La fromagerie, mine de rien, ça consomme quand même pas mal d'eau. Donc, on a quand même la... ce que tout le monde ne peut pas faire. Mais en attendant, on essaye de pas trop de vaisselle. On fait tout à la main. Donc, ça va, ça limite le nettoyage des machines, etc. Une activité qui consomme pas trop aussi au niveau électrique. Et après, ben, y a aussi toute la question de la commercialisation. On a la chance d'avoir tout à proximité.
Ouais.
J'avoue que livrer le fromage, je ne l'ai pas encore fait en vélo, mais pour le moment, ça fait son poids. Mais voilà, on a la chance de vendre dans un rayon de 15 km. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on réfléchit pour essayer d'avoir un impact minimal et en même temps d'entretenir le paysage, de contribuer au maintien de la flore locale et de laisser un paysage ouvert aussi, quoi. Assurément, c'est de dire on est une activité agricole et c'est important d'avoir un impact minimal sur notre environnement, sur l'écologie et d'avoir des systèmes réfléchis dans l'observation, dans la concertation sociale aussi. C'est de dire nos activités sont quand même complexes, donc c'est important de pas tout simplifier, hein, pas comme... certains politiques voudraient nous le faire croire. Par exemple, on a une infestation de quelque chose, peut-être pas y mettre forcément direct tout ce qui est en CID. et de se réfléchir les choses dans une forme d'harmonie, de dire plus j'ai de diversité, plus les choses vont se réguler. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Plutôt lutter contre tout ce qui est parasite avec de la diversité, quoi que ça implique suivant ton activité, plutôt qu'avec des produits chimiques, insecticides, pesticides, etc.
Oui, et puis d'avoir... moi, je vais parler de l'élevage, de se dire, si j'ai des bêtes costauds, que je les fais bien manger, je les ménage aussi. De pas dire juste il faut qu'elles soient productives, elles fassent beaucoup de lait, et ce qui les fatigue, je vais avoir des bêtes fragiles. Non, c'est se dire, je veux des bêtes costauds, l'immunité va être en fait un investissement à long terme. Typiquement, de dire, je vais peut-être pas mettre à la reproduction mes chevrettes de 1 an, mais peut-être attendre 2 ans qu'elles soient plus costauds et donc finalement qu'elles aient une carrière avec moins de problèmes de santé et donc moins besoin de médicaments. Et donc, c'est quelque chose de robuste.
Et alors pour faire l'avocat du diable, est-ce que quand tu mets pas tes chevrettes de suite à la reproduction, comme tu nous l'expliques, que t'attends un peu, est-ce que y a pas un manque à gagner ? Est-ce que tu perds pas de l'argent à faire ça ?
C'est un investissement à long terme.
Parce qu'elles seront en meilleure santé.
C'est ça. Et puis de toute façon, une chevrette d'un an qui va faire un chevreau, elle va pas faire. Enfin, normalement, elle fera peu de lait en fait. Et d'autant plus que elle sera jeune et donc c'est des choses à tester. J'ai pas envie de généraliser non plus. Chacun doit observer son troupeau, voir. Mais pour ça, il faut aussi avoir une finance solide. Nous, on a quand même la chance d'être locataire de la mairie. Donc, on a un petit loyer. On a commencé l'activité sans être endetté. Donc, ce qui nous permet aussi d'être moins dans le « il faut gagner de l'argent cette année, il faut qu'on rembourse nos dettes ». Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu la chance d'expérimenter la lactation longue. Et...
Tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement ?
Alors, en gros, Donc nous, on a repris un troupeau, les chèvres faisaient déjà du lait. Et en fait, la lactation longue, c'est de dire « on ne met pas à la reproduction les chèvres et on continue de les traire toute l'année ». La chèvre a la capacité de faire du lait en continu. C'est juste que ce qui se passe, c'est qu'en hiver, elles vont faire moins de lait parce que la ressource est moins riche. Mais en fait, au printemps, quand l'herbe est plus verte, qu'il y a les fleurs et tout, les bourgeons, elles refont du lait comme si elles avaient eu le chevreau. Et
donc elle tu les fais se reproduire que quand tu as envie d'avoir de nouvelles chèvres, quoi.
C'est ça.
En quelque sorte.
Oui, donc, ben là en l'occurrence, on a des chevrettes de 2 ans et on a un bouc qui a un tablier, donc il peut pas saillir ce qu'il veut, et on ne mettra que les chevrettes à la reproduction, et les chèvres adultes on continue de les traire toute l'année, et ça fait 3 ans qu'on fait ça.
D'accord. Donc tu as des chèvres par exemple qui n'ont pas fait de petits depuis 3 ans mais qui continuent à faire du lait par contre depuis 3 ans. D'accord.
Et qui diminuent l'hiver et ça remonte au printemps comme la végétation, quoi. En fonction de la végétation.
OK.
Oui.
Et alors c'est plutôt tu dis vous avez tenté ça, c'est plutôt
Ah bah on est complètement satisfait, c'est pour ça que ça fait 3 ans que ça dure. Et voilà, nous vu qu'on est en système pastoral où nos chèvres marchent plusieurs kilomètres par jour, le problème quand elles sont gestantes, c'est qu'elles sont vite fatiguées. Elles abîment leurs articulations si elles marchent trop. Mmh. Et donc, pour nous, ça répond à cette problématique-là aussi. Et ce que je peux entendre d'autres systèmes en élevage caprin, c'est que pour d'autres éleveurs, ça ne leur correspond pas. Mmh. Et nous, on a eu la chance de pouvoir expérimenter et de dire « Ah bah oui, c'est une bonne solution pour nous, ça nous va et on a envie de continuer comme ça ». Et on voit que nos bêtes sont en forme, y a moins de soucis de santé. Moi, je préfère cette routine de traire tous les jours que d'avoir un moment où il y a beaucoup de mise bas, beaucoup de chevreaux, beaucoup de stress, les bêtes fatiguées, nous aussi, la séparation avec les chevreaux. Ouais. Et donc, cette dynamique-là plus routinière et plus calme nous convient aussi, quoi.
Oui, ça permet d'éviter aussi, comme tu dis, la séparation et le fait de tuer des chevreaux.
Oui, et puis même la mise bas, c'est un moment stressant pour tout le monde. Il faut anticiper. C'est aussi un gros investissement financier parce que au moment de la gestation, on arrête de les traire pour les mettre en pause et donc on n'a plus d'entrée d'argent. Mais par contre, il faut bien les nourrir pour qu'elles fassent bien le chevreau et qu'elles soient en forme pour reprendre une nouvelle lactation. Tout ça fait que ça nous met dans une précarité, quoi, et dans un stress à nous aussi, les éleveurs, dans l'activité. Alors que quand on a la chance d'avoir du lait l'hiver, on maintient quand même une entrée d'argent, même s'il y a moins de lait. Et donc, ça fait une finance plus stable aussi. Tout le monde s'y retrouve.
Et le fait d'avoir des animaux qui ne sont jamais parqués, justement, comme on le disait tout à l'heure, ici, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, on voit les chèvres avec les poules, avec les oies, avec les canards, ils sont tous ensemble. Le chat aussi, qui est présentement empêtré dans nos fils de micro, à ronronner. Le fait d'avoir tous ces animaux qui cohabitent tous ensemble, relativement libres, pas chacun dans son parc isolé. Est-ce que ça, tu penses que ça a aussi un impact positif sur la santé de ces animaux? Le fait que tu me disais par exemple tout à l'heure les canards qui vont sur les chèvres pour manger certains parasites qui embêtent les chèvres, qui vont manger les mouches par exemple, est-ce que ça participe à une bonne santé de tout le monde, tout ça?
Bien sûr, oui. Je pense que, en tout cas je le constate aussi, on voit que ils vont réguler la population de larves de mouches dans le fumier, et puis il fallait voir les petits canetons qui étaient sur les chèvres en train de manger les mouches, et les chèvres qui disaient rien. Faut voir aussi les petits poulets qui mangent les crottes de nez des brebis. c'est folklorique. On constate que les œufs sont super bons. On constate que c'est prolifique aussi. On a plein de poussins. Que le fromage, il a du goût. Il est quand même savoureux et riche. Parce que je le vois aussi dans quand je transforme le fromage, au litre de lait, on a quand même pas mal de fromage. Donc ça veut dire que le lait est quand même riche en éléments. Donc tout ça me fait penser que c'est pas mal. Et que de voir nos bêtes en forme, c'est le principal indicateur.
J'ai l'impression, quand on parle comme ça, que presque vous, tous les deux, vous voyez vos chèvres comme des animaux de compagnie, presque.
Oui, on vit avec elles. Mon compagnon, il passe sa journée avec elles. Dès le matin, on commence, c'est au milieu d'elles, à leur dire « bon, ben, on va vous traire, on les traite à la main ouais. ». Donc, elles ont toutes des prénoms.
C'est un choix de les traire à la main ?
À la base, on avait quand même une machine à traire, un chariot de traite, donc un petit truc. Et il y a eu les travaux de la ferme qui ont fait qu'on n'avait plus d'eau pour nettoyer la machine. Et c'était à un moment donné où il y avait moins de lait. Donc on s'est dit, oh, ben, on va le faire à la main le temps qu'on ait de l'eau dans la bergerie. Et on a tellement apprécié de ne plus avoir le bruit de la machine. Mmh. Et puis même, on voyait que nous, on arrivait à assurer la traite à la main sans avoir le problème du canal carpien ouais. qui fait qu'on a des douleurs. On s'est dit, bon, bah, on va continuer. J'avoue que j'apprécie beaucoup d'écouter la radio le matin. Donc oui, je...
Et en plus, pas faire avec le bruit de la machine.
Ah oui, non, on n'entendait rien. Et puis même de dire aux gens, ah, bah, vous pouvez venir le matin pendant la traite, on peut discuter... Et c'est juste hyper agréable. Et on a beaucoup moins de problèmes aussi en termes d'infection des mamelles, les mammites.
Okay.
Parce que voilà, une machine, ben, c'est quand même un contact, une aspiration. Ouais. Ça ouvre le sphincter des mamelles, donc ça peut faire rentrer ensuite. Ouais. Et je touche du bois en disant ça aussi. On a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Donc on s'y retrouve et on met autant de temps à la main si on est à deux. Qu'avec la machine.
D'accord.
Beaucoup moins de vaisselle. Et voilà, la machine, pour bien la nettoyer, il faut quand même des produits un peu costauds. Et là, ben, c'est de la vaisselle normale, entre guillemets, vu qu'on fait tout à la main.
On a l'impression, en fait, que vous avez recréé une sorte d'écosystème interne à la ferme qui fonctionne, où vous cohabitez avec les animaux cohabitent ensemble, etc.
Oui, il faut juste dire au renard, viens oui. pas trop chez nous, mais on a des chiens. Et puis sinon, il y a France Culture que j'allume à fond et qui fait croire au renard qu'il y a du monde sur la ferme.
Ah ouais.
Oui, ça marche très bien.
C'est un épouvantail sonore.
Ah ben, en tout cas, oui, je touche du bois en disant ça, mais ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et puis on a nos chiens qui font le boulot d'éloignement du renard, parce que voilà, je sors de la ferme, je le croise souvent, ouais, donc et oui, c'est chouette de voir tout le monde, et même nous, c'est important. On y passe tellement de temps, on a envie de se dire, ah, c'est beau, ou de s'arrêter avec mon compagnon et de rigoler parce qu'il y a des scènes qui nous font nous émerveiller, ou juste de voir nos chèvres les unes sur les autres en train de dormir et de dire, oh, c'est trop mignon. Enfin, c'est génial de pouvoir encore s'émerveiller malgré les années. Et voilà, si on n'avait pas ça, on ne tiendrait pas, vu le temps qu'on y passe. Et oui, je pense que c'est très important d'avoir une certaine beauté ouais. dans notre lieu de travail, quoi.
Et ben, je te propose qu'on finisse cette émission sur ces très belles paroles. Entretenir la beauté sur son lieu de travail, surtout quand on travaille avec les bêtes et avec la terre, c'est quand même très beau. Mais ce n'est de toute façon qu'un au revoir, Julia, puisqu'on se retrouve le mois prochain pour aborder cette fois les sujets des menaces qui pèsent sur l'agriculture paysanne et sur la vision de la paysannerie que tu nous as décrit aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Julia, et je te dis donc à toi, comme à celles et ceux qui nous écoutent, à dans un mois pour la suite de cette chronique du Hérisson.